Bonsoir. Processus électoral. 7 mois après les élections générales du 20 décembre 2023, le centre Carter a rendu hier 24 juillet 2024 son rapport sur ces scrutins. Selon ce rapport, même si des améliorations ont été constatées par rapport au cycle électoral précédent, la conclusion générale de la mission d'observation du centre Carter note que le processus n'a pas respecté certains engagements internationaux en faveur d'élections démocratiques. Pour la mission d'observation électorale du centre Carter, un des éléments clés du rapport porte sur la question de transparence sur certaines étapes du processus électoral, notamment la transmission des résultats et la communication régulière avec les parties prenantes au processus électoral. Toujours selon ce rapport, les élections se sont déroulées dans un contexte de méfiance généralisée à l'égard du processus électoral. Parmi les recommandations, le centre Carter demande entre autres aux autorités d'organiser un dialogue national inclusif sur la réforme électorale en tenant compte des points de vue des partis politiques, de la société civile ainsi que des recommandations des missions d'observation électorale nationale et internationale. Quelle est que faire des conclusions du rapport final du centre Carter sur les élections du 20 décembre dernier? Nous en parlons ce soir avec Nicolas Tindas, qui est directeur de la mission internationale d'observation électorale du centre Carter. Nicolas Tindas, bonsoir.
Bonsoir.
Joseph Senda, il est directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Joseph Senda, bonsoir. Je pense qu'on l'a perdu, la réalisation va essayer de le rappeler. Aussi avec nous dans ce débat, Alain-Joseph Lomanja, il est analyste des questions électorales et docteur en éthique sociale. Alain Lomanja, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux auditeurs et bonsoir aux autres invités.
À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Un calendrier électoral comprimé, un déséquilibre dans la campagne électorale, tels sont quelques points soulevés dans le rapport final de la mission d'observation électorale du centre Carter. Un rapport rédigé 7 mois après les élections du 20 décembre dernier en RDC. On va écouter le directeur Nicolas Tindas qui a donné quelques détails de ce rapport dans cet extrait choisi par Étienne Lissoumou.
Parmi ces conclusions, on retient que la République démocratique du Congo a été en capacité de tenir les délais constitutionnels, mais qu'il y a eu un calendrier électoral qui a été très comprimé, et ceci a eu un impact sur la qualité et sur la transparence du processus. Autre conclusion que l'on peut tirer, c'est du point de vue de la campagne électorale. Elle a été certes compétitive, mais finalement visible principalement au niveau de la présidentielle et principalement autour de 2-3 candidats. Puis il y a eu quand même un déséquilibre dans la campagne en faveur du candidat sortant. Et puis le jour du scrutin, il y a eu ces nombreux retards à l'ouverture. Un scrutin qui s'est déroulé sur un nombre de jours assez important, dont on n'a pas vraiment le détail, puisque la CENI n'a pas communiqué finalement sur combien de jours le scrutin avait eu lieu, quels étaient les bureaux qui avaient ouvert, ceux qui n'avaient pas ouvert, et les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas ouvert. Donc c'est vrai qu'on a pu constater que la CENI n'a pas eu toute la maîtrise du processus électoral au moment du scrutin. Et puis, dernière conclusion peut-être, sur la question du traitement des contentieux, on peut noter que la Cour constitutionnelle et les juridictions en général ont traité les contentieux dans les délais pour la première fois, ce qui est un élément positif, mais que la manière dont les décisions ont été rendues n'ont pas forcément été effectuées en fournissant tous les soubassements pour justifier les décisions rendues.
Nicolas Tindas, vous êtes avec nous dans ce studio, dans cette émission, pour parler de ce rapport final du centre Carter, un rapport publié 7 mois après les élections générales du 20 décembre 2023. 7 mois, ce n'est pas tard.
7 mois, effectivement, ça peut paraître long, mais si vous regardez les autres missions d'observation, notamment nationales, je pense à la 5OCC et à Regards Citoyens, on est à peu près dans les mêmes délais. La raison principale tient au fait que la période post-électorale des contentieux, notamment, c'est une période qui est traditionnellement longue, qui est complexe, et on avait besoin d'avoir le plus de détails possible sur cette période-là pour pouvoir fournir un rapport étayé. Donc effectivement, ça intervient tard, mais mieux vaut tard que jamais, et surtout mieux vaut avoir toutes les informations en notre possession.
Alors vous avez salué les améliorations constatées par rapport au cycle électoral précédent, mais dans la conclusion générale de votre rapport, vous notez que le processus n'a pas respecté certains engagements internationaux clés en faveur d'élections démocratiques. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
Alors vous avez passé un extrait de ce que j'ai pu dire un petit peu plus tôt, et je peux effectivement le reprendre. Principalement, le contexte dans lequel cette élection s'est déroulée, c'est un contexte de manque de confiance, c'est ce sur quoi on insiste fortement, mais également la mise en place de la CENI et après du calendrier électoral qui s'est faite de manière tardive. La CENI a hérité effectivement d'un calendrier extrêmement serré, et que les étapes entre l'établissement du calendrier et la tenue de la date de l'élection ont dû être très très comprimées. Et quand on comprime les choses, ben forcément, on n'a pas. C'est comme le corps, quand il est comprimé, il n'a pas la possibilité de respirer et d'avoir ses poumons en pleine capacité. Là, c'est un petit peu pareil. Il y a des respirations qui ont pas pu se faire comme elles auraient dû se faire. Et je pense, par exemple, à la période de l'enregistrement des électeurs. Elle ne s'est pas faite. Alors, elle a été faite effectivement dans des délais extrêmement courts, et la CENI a fait preuve d'imagination et, c'est vrai, d'ingéniosité pour faire en sorte de tenir les délais en faisant un enrôlement simultané dans différentes zones, alternatif dans différentes zones du pays, mais tout le monde n'a pas pu être enregistré de manière satisfaisante selon les chiffres même de la CENI, puisque par rapport aux objectifs qui étaient visés par la CENI, elle n'a pas elle-même atteint ces objectifs-là. Donc par exemple sur cette étape-là, c'est vrai que ça a été compliqué. Les délais de publication des listes partielles, des listes provisoires, des listes définitives, ces délais n'ont pas été pleinement respectés, ce qui veut dire que les électeurs n'ont pas pu exercer leur droit de recours pour vérifier si leur nom était sur la liste, éventuellement pour porter un recours devant la juridiction administrative. Donc voilà, si je prends juste cet exemple-là, il y a eu un problème de transparence, parce qu'ensuite il y a eu cet audit du fichier électoral. Alors l'audit, la CENI le rappelle à juste titre, ce n'est pas une obligation légale, c'est une bonne pratique. Elle a eu effectivement, c'était très bien d'intégrer cette bonne pratique là. Il n'a pas pu se faire selon nous. On estime que l'audit ne s'est pas fait dans les conditions de respect de la méthodologie et des normes internationales en la matière, ce qui fait que le doute a persisté de la part d'une partie de la société civile et d'une partie de la classe politique sur la qualité et la vérifiabilité de cet audit. Donc voilà, si je prends juste quelques exemples sans être trop exhaustif, voilà ce qui peut avoir nuit à la transparence.
Alors, le fait de n'avoir pas respecté certains engagements internationaux clés en faveur d'élections démocratiques, comme c'est écrit dans les rapports, est-ce que cela pourrait avoir une incidence sur les résultats que nous avons eus après ces élections du 20 décembre 2023?
Alors, il y a eu, je pense, un autre élément qui a été beaucoup discuté par les parties prenantes, c'est sur la question de la transmission des résultats. le cadre juridique tel qu'il existe aujourd'hui au Congo est plutôt complet et plutôt conforme aux normes régionales et internationales, même s'il y a, il peut y avoir quelques ambiguïtés parfois et quelques contradictions, mais dans l'ensemble, le cadre juridique est plutôt correct. Et notamment sur la question de la transmission des résultats, le cadre juridique fournit la possibilité d'avoir une double vérification de ces résultats, c'est-à-dire la transmission des résultats papier, la transmission des résultats électroniques, et même une triple vérification, parce qu'il y a également ces résultats qui peuvent être scannés, les versions papier qui peuvent être scannées. Et le fait d'avoir choisi transmettre et de faire et d'utiliser uniquement les résultats électroniques comme base, ça a nui à la transparence, parce qu'on a dévié en fait de la règle de droit. Alors effectivement, ce qui a été avancé par la CENI, c'était la nécessité d'avoir les résultats le plus rapidement possible. C'est sur l'article 67 bis. Mais ce n'est pas parce qu'il y a cette exigence de rapidité qu'il faut contourner aussi certains aspects de la loi. Nous, on pense que certainement il y a des éléments qui peuvent être simplifiés dans cette partie-là, mais vraiment le respect de ces dispositions-là pour la transmission des résultats est important.
Joseph Senda, directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante, vous êtes en ligne?
Oui, madame, je suis en ligne, bonsoir.
Bonsoir. Vous avez sûrement pris connaissance du rapport final de la mission d'observation du centre Carter, dans lequel le centre Carter salue les améliorations constatées par rapport au cycle électoral précédent, mais elle note plutôt la mission d'observation du centre Carter note que le processus n'a pas respecté certains engagements internationaux clés en faveur d'élections démocratiques, mais aussi que les élections se sont déroulées dans un contexte de méfiance généralisée à l'égard du processus électoral. Votre réaction?
J'en profite d'abord pour dire saluer de bonsoir à Nicolas et bonsoir à tous ceux qui nous suivent, notamment s'il y a un autre co-débatteur. Effectivement, j'ai eu l'occasion de lire le rapport de la mission d'observation Carter. Je n'ai pas pu être à la présentation. J'étais avec Nicolas le soir à la réception. Je n'ai pas pu être à la présentation. J'étais à autre chose. Mais vous savez que lorsque une mission d'observation nous transmet son rapport, Il y a des éléments auxquels nous jetons en priorité le coup d'œil. C'est quoi, par exemple? C'est la taille de la mission d'observation. Dans le cas d'espèce, Carter a déployé 44 observateurs. Nous disons bien 44 observateurs. Vous conviendrez avec moi qu'il se pose un problème en termes d'observation, en termes de couverture des événements. 44 observateurs pour 256 sites de formation. 44 observateurs pour 74 000 bureaux de vote. 44 observateurs pour plus ou moins 200 CELSER. Et on arrive aux conclusions que nous présente le rapport. Je pense que quelque part il y a un petit problème. C'est comme ça que mon deuxième vice-président, Dans sa réplique, déjà à l'entrée du jeu, dans le rapport qu'il a présenté, je vais relire là quelque chose qu'il a dit. Toutefois, la CENI a comme l'impression que le rapport effleure à peine les points positifs, mais qui noie aussitôt des détails que la mission considère comme des faiblesses. Donc, nous regrettons que les choses aient été présentées de cette façon-là. C'est-à-dire que on a beaucoup mis en évidence ce qu'on considère comme des faiblesses, qui ont fini par noyer les points forts, les points positifs. Et des deux, dans le rapport de Carter, ils nous disent qu'ils ont observé 154 bureaux de vote. 154 bureaux de vote. Je peux me tromper, Nicolas peut me corriger, mais 154 bureaux de vote sur 74 000 bureaux de vote. C'est comme si moi je me trouvais à Kinshasa, où il y a plus de 400 quartiers, je visite un quartier. J'ai dit, ce quartier-là est très propre. Et puis j'ai dit, bon, tous les quartiers de Kinshasa sont propres. Je visite un quartier à Kinshasa, je trouve qu'on fait beaucoup de bruit. J'extrapole, non, tous les quartiers de Kinshasa, il y a beaucoup de bruit. C'est un peu ça, la situation qui nous est présentée par Carter. 154 bureaux de vote, il faut comprendre que là, il faut réfléchir plus d'une fois avant de pouvoir avaler toutes les observations qui nous ont été faites. Moi, j'aime bien Carter, j'aime bien Nicolas, il est très sympathique, mais je trouve que quelque part, il y a des problèmes qui se posent problème, si on peut le dire ainsi. Je voudrais qu'on
vous n'êtes donc pas d'accord avec ce rapport.
A travaillé dans ces conditions-là. Bon, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec le rapport. Je dis qu'il faut y aller avec beaucoup de souplesse parce que 154 bureaux de vote, ça représente quoi pour qu'on extrapole à l'ensemble? C'est cela que se pose le problème. Vous avez observé dans 154 bureaux, vous extrapolez. Vous savez, quand nous faisons les statistiques, lorsque nous prenons l'échantillon, nous veillons à ce qu'il soit représentatif pour qu'à la fin, les résultats soient extrapolés. L'échantillon sert à l'extrapolation, c'est-à-dire les constats, on les applique à ce que nous appelons l'univers. Donc, tous les constats faits dans ce rapport sont applicables aux 64 000 bureaux de vote. Mais les constats faits sur 154 bureaux de vote, on voudra les appliquer à 74 ou 74 000 bureaux de vote. Là, on réfléchit plus d'une fois. Et Carter a déployé les 44 observateurs dans 12 provinces. Évidemment, c'est presque la moitié de provinces. Mais une fois encore là, c'est 12 provinces. Même les 44 là n'auraient pas suffi pour couvrir Kinshasa. Ça n'aurait pas suffi pour couvrir Kinshasa. Kinshasa qui avait, j'ai le plus bon mémoire, peut-être 6000 bureaux ou plus, avec 44 observateurs. Donc c'est là que moi, ça me dérange un peu, et j'ai difficile à commenter outre mesure que ce que je viens de dire là.
Je voudrais
bien que Nicolas nous explique un peu comment est-ce qu'on peut, sur base d'observations dans 144 bureaux, arriver à extrapoler.
On va lui redonner la parole juste après Alain-Joseph Lumanja. Il va essayer de nous expliquer comment ils ont procédé. Alain-Joseph Lumanja, analyste des questions électorales et docteur en éthique sociale. Quelle lecture vous faites des conclusions du rapport final du Centre Carter sur les élections du 20 décembre dernier?
Alors, j'ai essayé de parcourir rapidement le rapport d'observation du Centre Carter, qui est l'une des organisations les plus expérimentées et les plus professionnelles en matière d'observation électorale. Je trouve que dans l'ensemble, les conclusions de ce rapport rejoignent celles des grandes missions citoyennes d'observation électorale. Et ces conclusions appellent à beaucoup de prudence par rapport au processus électoral que nous venons de vivre. Et contrairement au discours un peu laudatif que l'on entend de la part des membres politiciens de la CENI, et je ne parle pas des techniciens comme M. Joseph que j'ai appris à connaître dans ses interventions pour être assez mesuré, même par rapport au travail de la CENI, mais contrairement à ces discours-là trop triomphateurs et puis laudatifs, on se rend compte que finalement toutes les missions d'observation électorale, qu'elles soient nationales ou internationales, dénoncent un processus électoral qui n'a pas été vraiment ni totalement intègre et qui nécessite d'importantes réformes structurelles, juridiques et politiques si on veut atteindre les standards d'élection démocratique. Alors moi, je voudrais peut-être faire trois petites observations qui me semblent importantes. La première, c'est que, oui, c'est vrai, le Centre Carter lui-même reconnaît les limites de sa mission d'observation, qui n'a pas à proprement parler observé le jour de scrutin, parce que avec 24 OLT et 20 OCT pour ainsi dire, ils n'ont pas pu observer tout ce qui s'est passé le jour des scrutins. Et c'est là que je voudrais peut-être attirer notre attention dans un sens contraire à ce que vient de dire M. Joseph Senda. C'est-à-dire, le fait de n'avoir pas été partout fait aussi qu'il faut de la circonspection par rapport à certaines conclusions du Centre Carter, notamment là où ils affirment que la CENI a fourni beaucoup d'efforts. Parce qu'ils n'ont pas vu, par exemple, et je mets cela en exergue, les dégâts de la semaine électorale. les élections qui se sont déroulées, je ne sais pas, pendant 5 jours, 6 jours, je ne sais pas combien de jours, ils n'ont pas observé tout cela. Ils n'ont pas observé les votes nocturnes ou qui se sont déroulés dans les conditions que nous connaissons. Ils n'ont pas observé les votes privés. Nous avons des témoignages assez fondés qui font état de votes chez des particuliers, de votes multiples dans les bureaux de vote organisés par les chefs, les présidents des bureaux de vote. Ces éléments-là n'ont pas été observés par le centre Carter. Et donc, ils ont fait des conclusions qui peut-être n'entrent pas en détail. Quand je regarde le rapport ne parle même pas beaucoup de ce qui s'est passé le jour du vote. Donc il y a un problème important de transparence qu'il faut souligner. La deuxième observation, c'est que chaque fois que dans les rapports, on souligne les points positifs, on évoque en même temps des défaillances qui remettent un peu comme en question les points positifs qui ont été soulignés. Par exemple, quand on parle de l'inscription des électeurs, on loue le fait que la CENI a pu le faire en 4 mois, que c'était fait rapidement, mais en même temps, on souligne des limites importantes de ce processus-là d'enregistrement ou d'inscription des électeurs qui ont eu des conséquences, à mon avis, sur les jours de scrutin. Parce que l'un des problèmes que l'on a eu, c'est que le fichier électoral n'étant pas exhaustif, beaucoup d'électeurs étant absents des listes électorales, il y a eu toute cette tension autour des élections qui ont amené à la violence électorale. Mais on nous a présenté un fichier comme ayant été audité par les meilleurs professionnels, de la même manière qu'on a déclaré les membres de la CENI les meilleurs professionnels avant le processus électoral, avant qu'ils commencent leur travail. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important à ne pas oublier. Enfin, je vais peut-être m'arrêter là-bas, et c'est une question que je pose dans la perspective d'avenir. Est-ce que nous allons, en tant que nation, nous contenter à chaque cycle électoral des réformettes électorales à la marge, sans aller dans le fond des problèmes politiques qui dénaturent les élections dans ces pays? Je pense qu'on peut se tromper, mais on ne peut pas continuer à se tromper comme nation en disant organiser des élections qui ne sont pas intègres et qui ne reflètent pas toujours les votes du peuple comme souverain primaire.
Nicolas Tindas, vous avez suivi les analyses de Joseph Lomanja, qui est analyste des questions électorales, et de Joseph Tindas, directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante. Il estime, je parle de Joseph Tindas, que vous avez un peu extrapolé dans ce rapport, avec juste 44 observateurs. Vous avez visité, vous avez couvert juste 154 bureaux de vote sur 74 000 à travers le pays. Il estime que c'est insignifiant pour pouvoir faire ce genre de conclusion.
Merci, et je profite pour saluer mes deux interlocuteurs que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure. Je pense que dans l'intervention de M. Lomanja, il y a déjà eu une réponse que je peux complémenter. Effectivement, nous avons indiqué en exergue de notre rapport que les conclusions de notre rapport sont basées sur les observations d'un nombre limité de bureaux de vote avec un nombre limité d'observateurs. Malgré tout, ces observations se basent aussi sur tout ce que nous avons pu suivre des observations des missions d'observation citoyenne qui, si je prends les deux principales en termes numériques, c'est-à-dire la CENCO-SSC et puis Regards Citoyens, ont déployé en tout plusieurs dizaines de milliers d'observateurs. Et que si on regarde dans les grandes lignes, les conclusions de ces missions et nos conclusions sont relativement similaires. Donc, je veux dire, ce n'est pas nos observations ne viennent pas de nulle part. Maintenant, si je reviens sur ce qu'a dit Monsieur Lomanja aussi par rapport à ce que l'on n'a pas observé,
et notamment sur le jour du scrutin. Il y a aussi un problème de transparence dans votre rapport.
Alors, sur ce que l'on n'a pas observé, je pense qu'il a mentionné le vote nocturne.
Le vote nocturne, le vote privé des gars pendant la semaine électorale, etc. Voilà.
Oui, le vote nocturne, en fait, on l'a observé à Kinshasa. Kinshasa a connu malheureusement des problèmes avec des retards dans l'ouverture des bureaux de vote. On a observé aussi ce vote nocturne. Il s'est passé, on l'a aussi pu le visionner sur les réseaux sociaux. Ça a été documenté. La question du vote privé, je pense qu'il sous-entend le fait que les machines à voter pouvaient ne pas se trouver là où elles auraient dû se trouver. C'est quelque chose qui a été vu aussi sur les réseaux sociaux. Donc là, bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne va pas observer nous-mêmes, mais ça a été quand même largement rapporté, y compris par la CENI, puisqu'elle a elle-même annoncé l'invalidation d'un certain nombre de résultats, enfin de votes de certains candidats, 81, et également sanctionné un certain nombre d'agents de la CENI, puisqu'elle a reconnu elle-même que ces sanctions sont consécutives à des irrégularités qu'elle a constatées elle-même. Donc je voulais juste mettre l'accent sur ça. Et puis un autre élément aussi qui a été soulevé par Monsieur Lomanja, qui est effectivement pertinent, c'est que il dit que les points positifs qui sont soulevés sont aussi accompagnés de points négatifs ou de bémols. Et on a essayé de faire en sorte dans notre rapport de balancer le plus possible notre balance en fait entre les éléments positifs et les éléments négatifs, parce qu'il y a eu des éléments positifs et il faut les reconnaître, comme le calendrier très serré, la tenue des délais constitutionnels, le fait que la Cour ait traité les contentieux dans les délais pour la première fois, le fait que la CENI et la Cour ont traité aussi un nombre impressionnant de candidats et validé un nombre de candidatures et avec une très grande inclusivité, le fait qu'il n'y ait pas eu de coupure d'Internet, etc. Tout ça, ce sont des éléments positifs que l'on note, et là je reviens sur ce que M. Sanda a dit au tout début, je pense qu'on n'a pas, voulu minimiser les éléments positifs, mais il y a des éléments négatifs qui font que on essaie vraiment de faire en sorte de fournir une observation et une évaluation du processus la plus objective possible.
Alors, dans ce rapport, il n'y a pas eu que des critiques. Il y a aussi des fleurs qu'on a jetées à la CENI, mais aussi des recommandations. Et parmi les recommandations, le Centre Carter demande, entre autres, aux autorités d'organiser un dialogue national inclusif sur la réforme électorale en tenant compte des points de vue des partis politiques, de la société civile, ainsi que des recommandations des missions d'observation électorale nationale et international. Monsieur Sanda, qu'est-ce que vous en pensez?
Merci beaucoup. Je ne voudrais pas revenir sur ce qui vient d'être dit, mais le moins que je peux dire est que ma petite expérience en tant qu'observateur a été que lorsque une mission d'observation se met à élaborer son rapport, elle ne ferme pas ses oreilles à ce qui s'est dit par d'autres missions d'observation. Autrement dit, il y a une certaine marge qui peut faire que votre rapport soit orienté pour que vous ne soyez pas en faux par rapport aux autres. Donc, en dépit de vos propres observations, vous essayez de vous aligner sur les autres pour ne pas être en faux, pour ne pas être en conflit. Donc, vous orientez un peu malgré vous des orientations pour que vous soyez en harmonie avec les autres missions d'observation. Maintenant, si je veux revenir à la question que vous venez de poser, là, je voudrais répondre comme Congolais. Je crois que le problème qui se pose, ce n'est pas un problème d'institution, des lois, non. Le problème qui se pose, c'est le problème du Congolais. Le Congolais est un problème. On peut modifier les choses comme on veut, comme on voudra, mais tant que nous serons ce que nous sommes, eh bien, on n'avancera pas. Nous étions dans un atelier, je crois qu'hier matin, nous avons fait remarquer aux organisateurs de l'atelier le comportement de l'homme politique congolais, toutes tendances confondues. je vous assure que vous pouvez modifier toutes les lois. Tant que l'homme congolais sera ce qu'il est, on ne fera absolument rien du tout. Ça, je le dis en tant que Congolais. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est l'homme congolais. Et nous recevons les hommes politiques ici. Par politesse, on remet sa carte de visite. L'homme politique vous téléphone après pour dire « Est-ce que vous pouvez protéger mes voix ?»« Moi, protéger vos voix. Comment moi je vais protéger vos voix ?» Comment ça peut sortir de la bouche de quelqu'un qui croit qu'on peut protéger ses voix quelque part? Moi, je veux protéger. Ça veut dire quoi, protéger les voix de quelqu'un? Et ça, c'est la norme du Congolais. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui dans tous les secteurs, c'est l'homme congolais.
C'est pas un problème de texte, pas un problème de loi.
De l'homme congolais. Non, c'est pas un problème de texte. Je vais donner un autre exemple. La loi nous recommande d'avoir sur chaque macaron la photo du détenteur. Les politiques nous ont assaillis. Nous ne sommes pas en mesure. Et je me souviens, même vous, maman, vous m'avez fait cette observation-là. Nous ne sommes pas en mesure d'avoir des photos dans les Congos profonds. Enlever cette condition-là. Nous avons enlevé la condition. On a eu deux macarons sans photo. Il est établi que un macaron a servi à plus de 1000 personnes pour voter. Voilà les Congolais. Voilà là où nous sommes. On est venu pleurer ici, enlever la photo. Obstacle, obstacle, obstacle. Mais nous avons enlevé la photo, les macarons ont circulé, et un macaron, 1000 personnes. Parce que nous, dans les cadres de concertation, nous avions dit qu'en priorité, les témoins votent. Alors on a multiplié des macarons pour avoir des gens comme témoins et voter à la place. La CENI n'avait pas ça en tête. La CENI a repris la loi, ce qu'elle dit. Mais voilà comment est-ce que le politique a récupéré la chose à sa manière.
Organiser un dialogue, ce n'est pas opportun.
Quelque part dans une imprimerie. Nous sommes allés dans une imprimerie. Nous avons déposé la maquette pour qu'on nous fasse des macarons. On nous a fourni des macarons, mais ce que moi j'appelle la congolitude a joué. On est resté avec la maquette. On a commencé à reproduire les macarons qu'on vendait, 1500 macarons à 1000 dollars. Voilà le Congolais. Donc ce n'est pas un problème de texte, c'est notre problème. Moi, je voudrais bien adhérer à tous ceux qui voudront que le Congolais soit un autre homme que ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire.
Alain Lomanja, que pensez-vous de l'idée d'organiser un dialogue national inclusif sur la réforme électorale? Est-ce opportun ou pas?
Il me semble que c'est une idée très pertinente qui a d'ailleurs déjà été avancée par d'autres organisations et d'autres missions d'observation électorale. Je la trouve pertinente parce que c'est le lieu où il faut que les Congolais se regardent les yeux dans les yeux et qu'ils disent quelle nation, quel pays, quelle démocratie ils veulent construire au cœur de l'Afrique, au cœur du monde. Et là, je pense que c'est un élément très important en ce sens que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent a été soumis à la dictature des gens qui ont la majorité au Parlement, des partis au pouvoir. Et c'est dans ce genre de forum que les Congolais peuvent arriver à lever les options majeures qui nous éviteront de dépenser des milliards de dollars dans des processus électoraux délibérément bâclés par ceux qui ont le pouvoir de bâcler les élections. Je vous donne un exemple concret. Comment se fait-il que depuis 2006, tous les présidents de la CEI ou de la CENI doivent absolument être des proches du président de la République? Est-ce que nous allons continuer de cette manière-là? Comment peut-on admettre dans un pays qui se dit démocratique qu'à l'intérieur de la CENI, dans la composition d'une CENI qu'on veut indépendante, qu'on accorde la majorité à un camp politique parmi les membres de la CENI et que les autres représentants soient minoritaires, alors que la loi parle de l'indépendance de la CENI? mais cette indépendance est bafouée dans la composition de la CENI, mais on l'admet comme ça et ça ne choque plus personne. On trouve que ça doit continuer comme ça. Et si on n'élève pas des options majeures, nous allons faire des réformettes à la marge qui ne changeront rien. À chaque processus électoral, nous dépenserons des milliards de dollars, mais il y aura toujours les mêmes qui sont au pouvoir, qui contrôlent la CENI, qui reviendront avec des pourcentages qu'ils auront décidés à l'avance, madame.
On va ouvrir notre standard pour prendre ces nombreux auditeurs qui nous appellent de partout. On va se rendre à Ubundu. Ubundu, c'est dans la province de la Tchopo. Pour écouter cet auditeur, quelle question pour vous, Nicolas?
Rémi Lokonga depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Les conclusions du rapport final des centres.
Moi, c'est Ignace Ofumba d'Ubundu dans la province de la Tchopo. Les élections ont été organisées il y a de cela 7 mois et 5 jours aujourd'hui. Et le rapport du centre Carter est venu pratiquement en retard. La question est de se demander si cette organisation attendait faire le rapport global selon le calendrier électoral ou comment. Si ce n'est pas le cas, quant aux élections qui restent, quel est l'avis du centre Carter?
Comment me répondre à cet auditeur?
Sur la question des élections qui restent, il mentionne peut-être, j'imagine, les élections.
Puisque vous avez publié votre rapport final, il y a des élections qui restent à organiser. Qu'est-ce que vous pensez de ces élections qui restent à organiser?
Ah oui. Alors, notre rapport, il s'est focalisé sur les élections générales de 2023. Il ne s'est pas focalisé sur les scrutins indirects qui a eu lieu, donc avec les élections des sénateurs, des gouverneurs. Donc, la raison, encore une fois, je le rappelle pour cet auditeur, la raison pour laquelle on a publié ce rapport 7 mois après, c'était pour notamment toute la période, la longue période des contentieux, et pour pouvoir étayer notre rapport et asseoir nos recommandations. Mais nous n'avions plus d'observateurs à ce moment-là, et nous n'avions pas, et ce n'était pas prévu que nous observions les scrutins indirects en plus.
Alors, vous êtes très nombreux aussi sur Facebook à pouvoir suivre cette émission. John Capitula demande, est-ce que ces conclusions ont un impact sur les résultats des élections de 2023? Jean-Pierre Ilunga pense que le rapport est incomplet vu que leurs observateurs, c'est-à-dire les observateurs du centre Carter, n'étaient pas déployés dans tous les bureaux des votes. Merci à Ruben Sindani qui nous suit depuis Kinshasa, la capitale. Valérie Akissembe pense que ce dialogue est très nécessaire pour renforcer la cohésion et les vivre ensemble. L'élection de 2023 n'a pas été crédible, moins encore transparente. À mon avis, il nous faut des réformes rigoureuses avec toutes les parties prenantes pour éviter un chaos en 2028. Merci à Junior Mozande qui nous suit depuis la commune de Kimbanseki, ici à Kinshasa. On va se rendre, on va rester à Kisangani, hein, pour dans la province de la Tchopo, je veux dire, pour écouter cet autre auditeur qui appelle.
Rémi Lokonga depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Les conclusions du rapport final des centres Carter sur les élections du 20 décembre dernier reflètent les réalités vécues lors des derniers scrutins organisés dans le pays, surtout le contexte de méfiance généralisée à l'égard du processus. Le point de vue que je ne partage pas est celui d'organisation d'un dialogue national, bien que pourtant sur la réforme électorale. Quant au fait que les dialogues qui ont déjà été organisés dans le passé se sont toujours soldés au partage des gâteaux entre les parties prenantes. À mon avis, la réforme du système électoral peut se faire dans un autre cadre, impliquant la désignation des animateurs crédibles et consensuels qui doivent travailler en toute indépendance.
Joseph Senda, bref commentaire.
Bon, je crois que en partie le dernier intervenant me rejoint. Nous avons connu la conférence nationale souveraine, nous avons connu Santiti, et même avant la conférence nationale, nous avons eu beaucoup de rencontres. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est un problème d'éthique de l'homme congolais. C'est un problème d'éthique. C'est pas un problème de rencontres, ceci, cela. nous avons connu 4 cycles électoraux, nous CENI, nous agents cadre CENI, nous avons reçu des gens de tous bords, nous connaissons le comportement de chacun d'entre eux. Ceux qui sont là, qui observent, n'auront pas un comportement différent de ceux qui sont avec nous. Ces 20 ans d'expérience, là où je suis, ils n'auront pas un comportement différent des autres. C'est un problème d'homme. Nous sommes en pleine crise d'homme, comme congolais. Il est à récrier pour que nous puissions avancer. Tant que nous aurons ce que nous avons comme hommes congolais, avec nos tares, avec nos antivaleurs, ça ne marchera pas en dépit de toutes les rencontres que l'on pourra organiser. Nous avons besoin que les moralisateurs et remoralisent l'homme congolais. C'est à l'issue de ça que nous pourrons penser à un autre départ. Sinon, nous côtoyons les hommes politiques congolais, nous les connaissons, toutes tendances confondues. Nous travaillons avec les gens de la société civile, nous les connaissons également. Ils parlent comme congolais du fond de mon cœur, véritable crise d'homme. L'homme congolais est un grand malade qu'il faut guérir.
Merci. On va prendre ce dernier auditeur qui appelle de Kinshasa.
Junior Mpongo depuis la ville province de Kinshasa. Tout autre rapport que notre pays est mieux d'organiser un processus électoral crédible et apaisé. En clair, les rapports du Centre Carter soulignent des avancées tout comme en pointant des lacunes significatives qui doivent être abordées. La mise en œuvre des recommandations, notamment la création d'un dialogue inclusif, sera essentielle pour améliorer la confiance dans les processus électoraux et assurer des élections plus transparentes et démocratiques à l'avenir.
Cet auditoire vous rejoint un peu dans votre petite analyse de tout à l'heure, Alain Lomanja.
Oui, oui, madame, je partage son avis. Je pense qu'il est important que la nation se ressaisisse, que l'homme, les hommes politiques se ressaisissent, que les animateurs des institutions se ressaisissent. D'ailleurs, je partage l'avis de M. Joseph Senda sur le problème de l'homme congolais et je voudrais peut-être insister davantage sur l'homme politique congolais et l'homme politique, l'homme congolais qui se retrouve dans les institutions, notamment à la CENI, parce qu'on a tous les instruments juridiques pour faire son travail dans la transparence. Mais une fois qu'on est porté à la CENI, on ignore la loi, on ne la fait pas respecter ou on la fait respecter à minima selon que ça arrange ou ça n'arrange pas tel ou tel camp politique. Et ça pose de sérieux problèmes. Mais est-ce que nous allons sombrer dans le pessimisme en disant tous sont mauvais, il n'y a pas de bon parmi les Congolais, on ne fait rien. Je pense qu'il faut quand même qu'à un moment donné, la nation se réunisse et que les options fondamentales soient levées. Par exemple, on peut se dire que nous ne voulons plus être une nation qui triche. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. On triche partout, à toutes les élections, et ça se répercute dans la vie ordinaire. On triche partout. On peut quand même lever l'option de dire on ne va plus tricher. Mais si on dit tous sont mauvais, tous sont les mêmes, ils ne feront pas mieux que les autres, ça veut dire qu'on n'est pas prêt à voir les choses changer.
Merci Alain Lomanja. On va considérer cela comme votre conclusion parce que nous sommes à la fin de notre émission. Nicolas Kindal, ça sera aussi votre conclusion. En dehors de la réforme électorale, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour une élection, pour des élections crédibles à l'avenir, très rapidement?
Je pense que le corollaire, c'est le rétablissement de la confiance entre les acteurs. On l'a indiqué en préambule de notre rapport, manque de confiance des acteurs envers les institutions clés du processus électoral, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, de la CENI. Il est vraiment nécessaire de rétablir ce dialogue. Ensuite, nous avons listé 47 recommandations, c'est beaucoup, on a choisi d'en citer 10 hier à la conférence de presse, mais on pense qu'elles sont toutes importantes et elles sont adressées au gouvernement, au Parlement, à la CENI, bien évidemment, aux partis politiques, etc. Et que maintenant, notre mission internationale d'observation se termine, mais c'est à toutes les parties prenantes de se saisir de ces recommandations et de faire en sorte de les considérer ou pas, et puis d'avancer, mais main dans la main, avec tous les acteurs du processus, et y compris les hommes et les femmes politiques, bien évidemment.
Joseph Linda, votre conclusion.
Merci beaucoup, mais je dis avec un peu de regret lorsque j'entends monsieur l'abbé, je crois, si je n'abuse pas.
Monsieur
l'abbé, Joseph, il est abbé, excusez-moi, je ne sais pas très bien.
Oui, il s'appelle Alain Lomanja.
Okay, merci,
il est citoyen congolais.
Joseph, comme mon nom. Mais je crois que la petite. Merci beaucoup, hein, je suis content. Mais je crois que l'erreur qu'il vient de commettre, c'est de vouloir indexer. On n'a pas indexé une catégorie, surtout à la CENI. Non, je ne pense pas qu'il faille voir le problème de cette façon-là. Il faut voir le problème de sa globalité. La tricherie, vous la trouvez partout. Vous allez à la FECOFA, vous allez trouver des gens triches. Vous allez à l'université, les gens font ça. Partout, les gens font ça. Donc, c'est une erreur de vouloir indexer la CENI. Je voudrais que nous prenions conscience que nous avons un problème dans tous les secteurs de la vie nationale. C'est une situation globale, nous devons l'attaquer de manière globale, que de vouloir indexer, comme si tricher aurait été la particularité de la CENI. Encore faut-il démontrer, parce qu'en fait, c'est comme qui dirait, oh toi que je m'y mette, alors qu'au fond, le comportement reste le même. Donc j'insiste beaucoup, il faut que nous saisissions les taureaux par les cornes, en comprenant que nous sommes malades et que nous devons être guéri. Un collègue me disait, un des signes par lesquels on reconnaît qu'un fou commence à être guéri, c'est lorsqu'il se rend compte qu'il ne peut pas se promener nu. Donc notre guérison devra partir du jour où nous rendrons compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Je pense, au lieu d'indexer, saigner, etc.
Merci.
Je crois que c'est une petite erreur. Voilà un peu ma conclusion par rapport à.
Merci Joseph Senda, merci à Isaïe Manda qui nous suit depuis Kasumbalesa dans le Haut-Katanga, merci à Mbuyu Amabiki Amabika depuis Kikwit, merci à Jado Igilima depuis Bukavu, vous êtes très très nombreux, Christian Kapila Kankonde, merci beaucoup, Junior Mozande, merci beaucoup, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Bonne suite de programme pour la fréquence de la paix.